C'était le journal de Sarah Petitbon que l'on retrouve à 9h. Bonjour à tous, un numéro du Secret des Sources exceptionnel enregistré hier vendredi à Metz dans les studios de France Bleu Lorraine Nord à l'occasion de la 8e édition des Assises internationales du journalisme et de l'information.
Il me suffit de te voir. Je te regarde et je vois immédiatement un journaliste qui va me dire qu'il a une intuition.
J'ai vérifié certains
points. Veux-tu savoir ce que je pense des journalistes qui ont des intuitions?
This is Bob Woodward of the Washington Post.
New York Herald Tribune.
Nous avons quelques informations sur ce sujet par d'autres sources. Et bien sûr, on veut faire des recoupements.
This is terrific stuff. Where did you get it?
Ce type est bon. Il est aussi bon journaliste que tous ceux avec qui j'ai travaillé.
Le secret des sources.
Frédéric Barrère.
Bienvenue dans le secret des sources et les coulisses de l'information. Ce matin, pour ce numéro hors série en duplex de France Bleu Lorraine Nord à Metz pour les Assises internationales du journalisme, nous allons parler de la place des femmes dans les médias, la place des femmes dans les rédactions, mais aussi dans le contenu des journaux, radio, télé ou presse écrite. On a peut-être le sentiment qu'il y a autant de femmes que d'hommes dans les médias. Est-ce vrai? Est-ce une fausse impression? En tout cas, le nombre de femmes journalistes augmente chaque année, mais leur image est trop souvent encore associée à des clichés. Alors pour en parler avec nous ce matin, un débat totalement paritaire dans le Secret des Sources sur France Culture. Françoise Laborde, journaliste, membre du CSA et présidente de l'Association pour les femmes dans les médias. Françoise Laborde avec nous au téléphone, bonjour.
Bonjour, bonjour à tous et à toutes.
En studio, Ségolène Anoto, journaliste et porte-parole du collectif Prenons la Une, bonjour.
Bonjour.
Au téléphone également, Valérie de Senneville, journaliste aux Échos, bonjour.
Bonjour.
Et nous rejoindrons Marie-Christine Vallée en duplex de la Maison de la Radio. Marie-Christine Vallée, directrice déléguée pour l'éditorial Europe à Radio France, mais aussi, et c'est ce qui nous intéresse ce matin, responsable de la liste des femmes expertes que Radio France a mise en place. Je n'oublie pas nos deux experts, Jean-Marie Charon, co-organisateur des Assises, sociologue et spécialiste des médias, et Thibaut Henton, notre regard sur les images et le multimédia. Bonjour à tous les deux.
Bonjour. Bonjour à tous.
Dans les coulisses de l'émission, Vincent Abouchard, Mathias Mégy avec aux manettes Laurie Vachon de France Bleu Lorraine Nord. Et en fin d'émission, le clin d'œil de Yacine Bouzard. Vos commentaires, vos réactions sont les bienvenus sur notre site franceculture.fr. N'hésitez pas à nous écrire. Vous êtes chez vous sur France Culture et dans le secret des sources.
Chaleur, sécheresse et orage avec des températures qui se maintiennent autour de 35 degrés.
C'est donc l'un des temps forts de la semaine à venir, la présentation de la réforme pénale.
Au Pakistan, le bilan officiel s'alourdit, 25 000 morts, plus de 60 000 blessés.
18h politique continue avec notre invité ce soir, le commissaire européen aux affaires économiques, Meyer Moscovici. Bonsoir.
Merci d'être venu sur notre plateau. Je voudrais qu'on regarde ensemble ce qui s'est passé tout à l'heure à l'Assemblée nationale.
Bonsoir à tous et bienvenue. Voici les titres de votre journal.
Voilà des voix et des noms de femmes journalistes que l'on connaît tous. Françoise Laborde, qui est notre invitée, Claire Chazal, Béatrice Schoenberg, Audrey Pulvar, Ruth Elkrief et Marie Drucker. Montage de notre réalisateur Vincent Abouchard. Mais peut-être que cette image est trompeuse. En tout cas, une campagne vient d'être lancée cette semaine. Cette campagne s'appelle « Marre du sexisme ».
Oh, ça suffit là, mais qui c'est qui s'est fait
Écoutez,
ça enfin,
franchement.
Arrêtez quoi, je suis pas une poule hein, c'est bon.
Savez-vous vraiment pourquoi vous avez été choisie? Parce que vous êtes une belle femme issue de la diversité?
Et surtout au pénal, il faut avoir les épaules très larges. Est-ce qu'une femme a les capacités pour le faire?
Voilà, je vois en studio Ségolène Anoto qui réagit déjà. Il s'agit donc d'une campagne lancée par le site participatif matcholand.fr qui propose aux internautes de dénoncer les dérives sexistes des personnalités, des entreprises et des médias. Valérie de Senneville est avec nous au téléphone du journal Les Échos. Les Échos, Valérie de Senneville, où vous avez mené et vous menez toujours un combat pour la parité.
Oui, un combat, c'est peut-être plus un combat maintenant parce qu'on est à la phase construction. Mais juste, je voudrais faire une parenthèse avant de commencer, si vous me permettez, Frédéric. Votre émission s'appelle Secret des sources et j'adore. Et je voudrais apporter tout mon soutien, et je pense que tout le soutien de la SDJ des Échos, à deux hommes, parce qu'avant d'être une femme journaliste, je suis une journaliste, à Gérard Davé et Fabrice Lhomme. Voilà, pour les articles qui ont été publiés récemment.
Dans Valeurs Actuelles.
Dans Valeurs Actuelles.
Sur leurs sources, sur leur méthode de travail.
Voilà.
Alors, on a beaucoup, Valérie de Senneville, on a beaucoup parlé au printemps 2013, les journalistes femmes des Échos ont entamé une grève des signatures. Pourquoi en êtes-vous arrivée à cette grève ?
Sur le combat des femmes au sein des Échos, je pense que ça a été un combat dans un premier temps. Ça s'est passé en juin, en fait, chez nous, en interne d'abord, parce qu'il y avait des mouvements, comme dans toute rédaction, il y a un mouvement de chaises musicales qui se produit à un moment donné, et toutes les nominations qui ont été faites, c'était des hommes, les uns après les autres. Et on s'est demandé, on s'est ému auprès de notre direction de la rédaction de voir 11 hommes nommés, 12 voire même, et 0 femmes.
À des postes de rédaction, de direction, de rédaction en chef.
Voilà. Alors que nous sommes une rédaction parfaitement paritaire.
Et alors, cette grève de signature n'est pas forcément bien accueillie par votre direction.
Non, au départ, ils ne comprennent pas. Au départ, il y a d'abord un mouvement de déni. Non, je ne vois pas où est le problème. Tout va bien. Ensuite, on dit, mais on a compris, vous n'êtes pas assez visible, donc on va mettre vos photos. Comment vous dire ? Non, c'est pas exactement ça qu'on veut. Et ensuite, en fait, mais très vite, au bout d'une quinzaine de jours, on décide d'un plan d'action, de voir des cabinets d'audit pour faire un véritable audit de parité, puisqu'ils étaient à l'origine dans le déni. On leur a dit, ben, à ce moment-là, très bien, prenons une personnalité extérieure qui va venir voir ce qui se passe chez nous.
Est-ce que des journalistes hommes vous soutiennent là, à ce moment-là ? Ils peut-être font la grève des signatures également.
Ce que montre l'absence de parité dans l'évolution des carrières, c'est aussi l'absence de management des rédactions. Parce que le journaliste, on n'aime pas être managé. Pour nous, la DRH n'a rien à voir dans une rédaction, à juste titre. Hein. Mais il faut voir ce que cela entraîne. Il n'y a plus de processus transparent de nomination. Et ce qu'a très bien montré aussi le cabinet Équilibre, c'est que sans processus transparent de nomination, eh bien, il y a un entre-soi qui se crée automatiquement. Et si vous avez des hommes, eh bien, ils vont reproduire des hommes.
Aujourd'hui, le travail du cabinet d'experts a apaisé la rédaction.
Elle a été apaisée assez vite à partir du moment où on a fait venir ce cabinet d'experts, parce que ça permettait de mettre tout à plat. Et là, il y a eu une vraie écoute et un vrai dialogue avec la rédaction en chef et la direction du journal.
Parce que la direction a, je crois, accepté d'être formée à la parité. Donc, vos directeurs sont quand même plutôt de bonne volonté pour permettre à cette parité de...
Et ils sont rendus compte que c'était plus tenable, en fait. Donc, il fallait un tiers, un médiateur. Et quelque part, le rapport du cabinet d'expertise a permis cette médiation et cette prise de conscience. Et aujourd'hui, les hommes de la rédaction sont aussi bien conscients que ce que l'on a mis en place sert à tout le monde.
Alors, tout n'est pas réglé. Valérie de Senneville, donc journaliste aux Échos. Et on va écouter un petit extrait qui va nous montrer pourquoi tout n'est pas réglé aux Échos encore.
Merci madame. J'en profite en introduction puisque vous m'avez...
Non madame, ça va pas non plus.
Vous m'avez menacé.
Non. Alors... Attendez, monsieur Aubert, vous n'avez plus la parole. Soit vous respectez la présidence de séance... Soit il y a un problème.
Mais je respecte...
Donc c'est madame la présidente.
Je, voilà. J'utilise les termes de l'Académie française. Y a
un rappel à l'ordre avec inscription au procès verbal.
Faites un rappel à l'ordre, Madame le Président.
Voilà, c'était la semaine dernière à l'Assemblée nationale entre Sandrine Mazetier, vice-présidente de l'Assemblée, et le député UMP Julien Aubert. Alors je disais que tout n'est pas réglé aux échos parce que bien mardi dernier, dans l'éditorial, eh bien, hop, une rechute. L'éditorial est intitulé « Précieuse ridicule » et le texte n'est pas tendre avec Sandrine Mazetier. Il est notamment écrit... On s'étonne qu'elle supporte encore de ne pas s'appeler Mazetière. Alors comment cet édito a-t-il été accueilli dans la rédaction des Échos, Valérie de Sainte-Ville ?
Pas très bien. Pas très bien. On n'arrête pas de s'émouvoir, hein, les femmes des Échos. Mais quand je vous ai dit qu'on était vigilantes de se biller auprès de la rédaction en chef en disant ben, « Écoutez, au moment où on met tout ça en place, ça fait un peu désordre. » Ils en ont tout à fait convenu. Voilà, à part ça, on est choqués. Ce n'est pas les images, je pense, de la majorité des journalistes des Échos, c'est évident. Je pense que ce n'est pas donner une bonne image du journal, ce genre de billet, et que tout le monde le regrette aujourd'hui. Voilà.
Alors votre combat, Valérie de Sainte-Ville, votre combat pour la parité a précipité, favorisé la création du collectif Prenons la Une. Ségolène Anoto, vous êtes porte-parole de Prenons la Une.
Co-porte-parole, oui.
Co-porte-parole de Prenons la Une, un collectif qui a du succès. Vous avez recueilli beaucoup de signatures de soutien et votre manifeste, publié dans Libération au mois de mars, a eu beaucoup d'écho. Vous donnez un coup de poing hein, carrément sur la table en faisant un constat de la place, la petite place, dites-vous, qu'occupent les femmes dans les médias. Elle est vraiment si petite que cela ?
Ah ben non, puisqu'on représente la moitié des cartes de presse. Elle est petite si on regarde les postes de direction. Les postes de direction, c'est 7 fois sur 10 un homme qui occupe ce poste. Et puis si on regarde les inégalités salariales, c'est 12%, 12-13% encore. Et les femmes journalistes sont encore trop précarisées, oui. Alors... Mais ce n'est pas seulement ça dont on parle dans le manifeste. On parle aussi du contenu, et ça c'est très important.
Oui, alors le contenu, c'est-à-dire les femmes expertes, la place, l'image qu'elles donnent en fait.
Oui, la façon dont les femmes en général sont traitées dans les médias. Là aussi, il y a des chiffres et c'est important les chiffres parce qu'avant qu'on mesure tout ça, il n'y avait pas vraiment de prise de conscience. On parlait un petit peu dans le vide. En gros, quand on parle des femmes expertes, c'est-à-dire quand quelqu'un parle à la télévision, dans les colonnes d'un journal ou même à la radio pour sa compétence, pour son savoir, quand il est interrogé pour ça, ben, 8 fois sur 10, c'est un homme. Je pense que ce n'est pas la réalité du savoir aujourd'hui. La moitié des doctorants sont des doctorantes. Les deux tiers des diplômés d'enseignement supérieur sont des femmes. 30% des conseils d'administration des entreprises du CAC 40, ce sont des femmes. Donc la question, c'est qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi on est encore dans ce genre de ratio ? Et puis, qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer les choses ?
C'est-à-dire, dans le contenu, là, les femmes sont invisibles, selon vous ?
Oui, c'est une quasi-invisibilité des femmes. Et la responsabilité des médias, elle est grande parce que, finalement, ce qu'on ne montre pas, on l'occulte. C'est quand même assez connu, en fait. C'est même Lacan qui disait « ce qui n'est pas dit n'existe pas ». Donc, quand ça favorise les inégalités, en fait, le fait de ne pas... représenter les femmes dans leur juste valeur, représentation de la société.
Alors, est-ce que vous avez des remarques à faire aussi sur la façon dont les journalistes présentent
Plein.
Les femmes
Oui, c'est ce qu'on appelle les stéréotypes, les clichés. Enfin, on a beaucoup parlé des stéréotypes de genre à propos des écoles, mais on les retrouve dans les médias. C'est peut-être parce qu'on ne les a pas assez chassés dans les écoles qu'on les retrouve dans les médias. Les stéréotypes, c'est un peu l'image qu'on a des femmes, des clichés sur ben voilà, la compétence appartient aux hommes. Donc c'est pour ça aussi qu'on retrouve plus d'hommes dans les experts que de femmes. Ou alors, pour les femmes politiques, effectivement, on a entendu Sandrine Mazetier essayer de faire valoir sa condition de présidente. Bah, c'est le fait de ne pas être toujours à sa place, d'avoir volé sa place, d'avoir toujours un homme qui a permis son ascension. Ou alors, tout simplement, quand on fait un portrait de femme politique, c'est de s'attarder sur la façon dont elle est habillée, la façon dont elle porte la robe. Voilà, on a dit de Pascale Ouattard, quand elle a été nommée, la blonde peroxydée dans les colonnes de Libération. Enfin, ce genre de choses.
Oui, il y a la une de l'Express aussi sur Ségolène Royal.
Oh, il y en a eu plusieurs, oui.
Ouais.
L'emmerdeuse.
L'emmerdeuse cet été. Alors là, comment vous réagissez ? Vous appelez Christophe Barbier ? Vous appelez les journalistes de l'Express ?
Alors, non, on a la chance aujourd'hui d'avoir les réseaux sociaux et de pouvoir interpeller directement via Twitter, via Facebook. Et puis, on a aussi un Tumblr, prenons la une. Vous nous retrouverez assez facilement.
Qui répertorie tous ces exemples, ces dérapages machistes ?
Pas tous, hein, mais
beaucoup.
Beaucoup, ouais. C'est important, c'est ce qu'on appelle le name and shame. En anglais, c'est pas bien, mais en français, c'est moins percutant. Mais oui, c'est une façon de ne plus laisser passer ce genre de choses. Macholand fonctionne de la même façon, vous l'avez cité en début d'émission.
Macholand qui a donc été lancé cette année. Alors on va écouter un autre exemple, une autre déclaration qui suscite alors là une réponse très efficace. Nous sommes au Sénat qui alors d'ordinaire est quand même une assemblée très calme et légèrement endormie, mais là elle se réveille, je vous laisse écouter.
Mes chers collègues, il y a dans notre assemblée souvent des débats qui dans nos différences, nos oppositions, nous grandissent et grandissent notre assemblée. Je crains que celui de ce matin soit un débat qui soit terriblement régressif. J'irai voir. Pardon ? Vous pouvez répéter un petit peu plus fort ce que vous venez de dire, monsieur le sénateur. Vous venez de dire, parce que des fois, ce ne serait pas au JDO. Vous venez de dire à mon propos, pendant que je parlais de la parité, c'est qui cette nana ? Je souhaite que ce soit bien inscrit. Votre nom, s'il vous plaît ? Monsieur Sido. Voilà. Bien, je note donc que monsieur Sido. Donc, je vous épargnerai le rappel au règlement, puisque je suis actuellement en train d'intervenir. Mais je crois que vous avez gagné peut-être ce matin la palme du misogyne beauf de cette assemblée.
Et voilà c'est dit. Palais du Luxembourg, voilà. Janvier 2013, débat sur la parité. Et c'est donc Laurence Rossignol, sénatrice socialiste, aujourd'hui secrétaire d'État chargée de la famille, que vous avez entendue. La palme du misogyne beauf de cette assemblée. Une réaction, Ségolène Anoto, on parle des médias, mais il y a pas mal de dérapages machistes au Parlement.
Bah, vous retrouvez les mêmes ratios, c'est-à-dire 22-23% de femmes. Le reste, c'est des hommes, c'est souvent des hommes de la cinquantaine, notables de province. Je pense que ça joue. Et oui, une tradition machiste à l'Assemblée, oui.
Françoise Laborde, membre du CSA, journaliste et présidente de l'Association pour les femmes dans les médias. Alors, Françoise Laborde, vous êtes d'accord sur le constat, le plafond de verre, la place faite aux femmes dans les médias, mais il n'empêche que vous êtes quand même très alarmiste. Vous dites qu'il y a un retour en arrière. Même s'il y a plus de femmes, il y a tout de même un retour en arrière. Expliquez-nous.
Alors oui, je considère qu'il y a en effet un retour en arrière par rapport à ce que j'ai connu moi quand j'ai démarré dans le journalisme. Et je voudrais dire en préambule que tout ce que vous avez cité, entendu, montré comme propos est représentatif de la tolérance de la société française à l'égard du sexisme. On est dans une société qui est fondamentalement sexiste et il y a une tolérance française à l'égard de ça. On trouve que c'est normal, que ça fait partie, ma foi, du rapport homme-femme et que ça fait presque partie du rapport normal de séduction homme-femme. Et donc ça fausse complètement les règles du jeu. Alors appliqué aux médias, on se rend compte que le média n'étant jamais que la représentation d'une société, qu'on est en effet dans des écarts qui sont absolument considérables. Aujourd'hui, les femmes expertes, Ségolène l'a dit tout à l'heure, représentent à peu près 20% des expertes à la télévision, 17% en radio. Et la part des femmes à la télévision est à peu près autour de 20%. Et ces femmes qui occupent 20% de la place, quand on interroge le ressenti du téléspectateur ou de la téléspectatrice, ils répondent tous « mais il y a autant de femmes que d'hommes ». C'est-à-dire que...
C'est l'impression que l'on a quand même, Françoise Laborde. C'est une photo vraiment déformée ?
Oui, c'est une photo complètement déformée. C'est très intéressant dans l'inconscient collectif. Quand on voit une femme, on a l'impression qu'elle occupe tout l'espace. Et ça, c'est très révélateur, en effet, d'une mentalité. Si on fait un sujet sur les femmes dans l'actualité, on a l'impression qu'on a parlé que des femmes pendant une session d'actualité. Donc ça, c'est quelque chose qui est très important, et c'est pour ça que je voudrais relever aussi ce que Ségolène disait, qui est très important, qui est la mesure chiffrée. Parce que la mesure chiffrée permet d'objectiver les choses. Tout récemment, des chiffres ont été sortis sur le secteur de la culture en France. Savez-vous que 87% des opéras sont dirigés par des hommes. 87% des directeurs de théâtre sont des hommes. 87% des pièces montées sont des pièces écrites par des hommes. Et la culture est symbolique de la mentalité inconsciente d'un pays. Et ça, c'est complètement révélateur de l'état d'esprit. C'est sur ça qu'il faut lutter. Alors, pour revenir à la presse et pour revenir aux médias, médias. Oui, j'ai eu la chance de démarrer à une époque où, en effet, il y avait des patronnes. Moi, j'ai démarré avec une patronne qui était merveilleuse, qui s'appelle Michèle Cotta, et qui m'a donné ma chance et qui a donné de la chance à d'autres femmes. Mais c'est vrai aujourd'hui que vous regardez dans les chaînes de télévision, dans les radios, les responsables, les patronnes, les directrices, elles se comptent sur les doigts d'une seule main. Et ça, ça n'est pas possible. On ne peut pas vivre en 2014 dans une démocratie qui considère comme étant normal que la moitié de sa population, 51%, soit considérée comme subalterne par l'autre moitié de la population. Ça n'est pas possible dans une démocratie moderne. Et je tiens à dire que la France, qui donne des leçons de démocratie à la terre entière, s'enorgueillirait de donner toute la place à la moitié de sa population qui est représentée par les femmes. Et moi, ça m'exaspère de vivre dans un pays qui trouve ça normal. Voilà. C'est pour ça que je suis en colère.
Eh ben voilà, on vous a entendu haut, fort et clair, Françoise Laborde. Donc vous êtes bien sûr présidente de l'Association pour les femmes dans les médias, mais également membre du CSA. Et de quels moyens de pression ou de sanction vous disposez au CSA pour faire respecter cette parité ?
Alors justement, le CSA maintenant a un nouvel outil législatif, puisqu'il y a eu la fameuse loi sur l'égalité hommes-femmes qui a été votée et qui va rentrer maintenant en application. C'est Sylvie Thiers Brossolette qui est la présidente du groupe de travail pour les femmes et qui va mettre en musique tout cela. L'objectif, c'est évidemment de donner des objectifs quantifiés, c'est-à-dire qu'on va demander à toutes les rédactions qu'elles arrivent à 30% des femmes présentes sur les plateaux en tant qu'expertes, et on va leur demander est-ce qu'il y a au moins 50% des femmes qui sont dans les rédactions qui ont accès à l'antenne. Donc l'objectif, c'est 50% parce qu'il y a plus de femmes dans les rédactions que d'hommes aujourd'hui. Mais comme par hasard, c'est elles qui en général assurent les permanences du dimanche, les émissions qui sont pas forcément les plus prestigieuses. Donc le but, c'est qu'elles aient la même visibilité que les hommes et qu'elles occupent, et ça c'est l'objectif de l'association pour les femmes dans les médias, qu'elles montent dans la hiérarchie, parce que en effet, ça change complètement les choses. À partir du moment où il y a une parité dans la hiérarchie, eh bien les femmes sont promues de la même façon que les hommes. Il faudrait arriver à un système qui est très simple et qui, au fond, demande un petit effort intellectuel mais qui n'est pas infranchissable, qui serait de dire, chaque fois qu'il y a un poste qui se libère, il faut qu'il y ait une proposition paritaire, un homme, une femme, pour le poste. Il est clair que si les médias, si on ne commence pas par tirer à un moment donné, par pointer quelque chose, on n'y arrivera jamais. Le système dont parle Ségolène, qui est en effet le name and shame, et que moi j'aimerais personnellement transformer en show and shine, c'est-à-dire mettre en valeur ceux qui font des efforts, eh ben c'est bien. Il faut montrer aux responsables que s'ils ne le font pas par vertu, qu'ils le fassent par efficacité. Il faut leur montrer que dans l'entreprise, c'est très important d'avoir des femmes au poste de gouvernance parce qu'elles sont extrêmement efficaces. Il faut montrer aux patrons de chaîne que c'est très important de mettre les femmes en avant parce qu'ils vont avoir des émissions de meilleure qualité. C'est ça qui compte. C'est pas simplement la parité pour le bonheur de la parité. C'est parce que c'est un exercice de démocratie fondamentale et que c'est en plus quelque chose qui améliore la qualité des antennes. Et ça, j'y crois fondamentalement.
Ségolène Anoto, vous vouliez réagir ou intervenir ?
Oui, je voulais juste réagir sur le chiffre de 30% de femmes expertes à l'antenne. Il me semble que c'était déjà l'objectif avant la fin de l'année 2014 que vous aviez fixé pour les grands groupes audiovisuels. Alors, où est-ce qu'on en est ?
Je ne vais pas vous donner de chiffres parce que je vais dire des bêtises. On attend d'avoir les résultats en fin d'année pour pouvoir quantifier tout ça. On a quelques efforts.
C'est vous qui mesurez ?
À vrai dire, ce sont les chaînes qui nous donnent les résultats de ce qu'elles ont effectué.
C'est déclaratif.
Voilà, c'est déclaratif. Et nous, on fait des contrôles qui sont aléatoires pour nous assurer, en effet, que personne ne nous a menés en bateau.
Il y a eu des progrès ou...
Oui, il y a certains progrès. Sur certaines émissions, moi je suis frappée de voir qu'il y a maintenant de nouveaux visages de femmes journalistes politiques qui sont des signatures connues, qu'on ne voyait jamais sur les antennes et qui maintenant participent régulièrement à des émissions de télévision et qui ont beaucoup de talent et qui sont tout à fait compétentes. C'est ça qui est extraordinaire, en plus. C'est qu'on se prive. Les Chinois disent de la moitié du ciel, n'est-ce pas ? Donc on se prive de la moitié du ciel. Et c'est ça qui est désolant, vraiment.
Voilà, je peux laisser la conduite de l'émission en toute sécurité à Ségolène Anoto et Françoise Laborde. Le secret des sources, quelle place pour les femmes dans les médias ? Avec Françoise Laborde, Ségolène Anoto, Valérie de Senneville et Marie-Christine Vallée que nous allons retrouver dans un instant. Vos commentaires sont les bienvenus sur le site de franceculture.fr.
Le secret des sources, Frédéric Barrère.
Thibaut Henton, pour le multimédia, est avec nous. Alors Thibaut, ce matin, vous vous intéressez aux femmes de Facebook et d'Apple.
Et oui, vous allez voir qu'elles sont vernies. Figurez-vous que les deux géants des technos, souvent novateurs en matière de management, commence une dépêche de l'AFP, les agences ont le sens de l'ironie, Apple et Facebook donc, dans un geste de grande bonté, s'apprêtent à permettre à leurs employés et eux de congeler leurs ovocytes. 20 000 dollars, c'est le prix de la couverture promise pour une telle congélation, ce qui ne couvrirait pas la totalité des frais, soit dit en passant. A noter qu'il n'est pas question d'en faire autant pour les hommes qui voudraient conserver leur sperme, manière de reconnaître que le problème ne se pose que dans un sens. Si elles ne se posaient pas la question, les femmes d'Apple et Facebook sont donc quasiment sommées de le faire désormais. Comment faire en sorte que les femmes puissent, comme les hommes, se dévouer corps et âme à leurs entreprises? Grâce à la technologie, pardi, en subventionnant la cryogénisation de leurs ovocytes, celles dont l'âme était déjà acquise à leur boîte ont donc désormais les moyens d'y conserver leur corps. Ces femmes, qui ne touchent déjà pas le même salaire que les hommes à responsabilité égale, ça c'est particulièrement valable en France, sont donc sommées, en gros, de reporter leur vie à un après-travail. Mais quand exactement ? 5 ans maximum, le temps de conservation des ovocytes congelés.
Et ensuite, Thibault ?
Eh bien, ensuite, faudra-t-il, au bout de 5 ans, qu'elles renoncent à leur travail, qu'elles recongèlent leurs ovocytes ? Cette possibilité hallucinante offerte par Facebook et Apple ne résout pas la question de la discrimination des femmes qui cherchent à allier vie professionnelle et maternité. En croyant résoudre par la technologie un problème d'égalité salariale, ils contournent le droit, reportant le problème pour les femmes, tout en faisant croire à l'ensemble de leurs salariés qu'il est possible de reporter indéfiniment leur vie. Et d'ici là, de la fondre tout entière dans l'entreprise. Ce solutionnisme technologique est une idéologie en vogue dans la Silicon Valley et le secteur des technologies en général. Facebook, réseau qui a commencé, je le rappelle, afin de permettre à de jeunes adultes mâles désemparés de faire au sein de leur université leur marché parmi leurs congénères femelles. Facebook, donc, qui pense avoir résolu l'équation pourtant insoluble de la vie et du travail exploité, contribue grandement à ce brouillage. Facebook crée de la valeur en nous faisant travailler, en vendant de la publicité à des annonceurs grâce aux vies que nous y déversons quotidiennement. Enfin, ce solutionnisme technologique anime également ceux qu'on appelle les transhumanistes, chercheurs en intelligence artificielle qui rêvent d'imprimer leur cerveau sur du silicone pour échapper à leur finitude. Le combat contre ce solutionnisme, parce que nous avons tous à défendre notre vie contre le salariat, parce que cette défense passe par une amélioration de l'existant ici et maintenant sans renvoyer à une post-humanité cryogénisée, ce combat donc, avant d'être un humanisme, est un féminisme.
I am inviting you to step forward, to be seen, and to ask yourself, if not me, who? If not now?
Ce qu'on entend là, c'est la fin du discours d'Emma Watson qui incarne Hermione Granger dans Harry Potter à l'écran le 21 septembre dernier à la tribune de l'ONU. Discours pour les droits des femmes et que j'invite tout le monde à écouter. Il a déjà beaucoup circulé, particulièrement ceux qui pensent encore que féminisme signifie haine des hommes.
Thibaut Henton, merci. Voilà Pharrell Williams sur France Culture, sa chanson It Girl, extrait de son dernier album Girl. Pharrell Williams, mais aussi Jean-Marie Charon sur France Culture, notre sociologue spécialiste des médias. Alors Jean-Marie, c'est vrai que dans les médias, la place des femmes pose question.
Oui, et la question notamment des journalistes femmes est une question qui est assez ancienne. Et on en a souvent peut-être une image, je dirais, déformée, dans la mesure où au début du siècle, du XXe siècle, on avait déjà des figures féminines en matière de grands reportages. On a évidemment André Violis ou Louise Weiss, mais c'était des exceptions. Et en fait, au début des années 80, donc beaucoup plus tard, on n'en était encore qu'à 25%, à peine le quart des femmes, des journalistes étaient des femmes. Et en fait, c'est à partir des années 2000 que la proportion se déplace et que progressivement, on s'approche effectivement de la parité. On est aujourd'hui à 46,1% si on se réfère aux chiffres qui sont fournis par l'Observatoire des métiers de la presse. Alors, où sont-elles? Elles travaillent davantage en presse écrite. Elles sont souvent dans la presse magazine, hein, c'est là qu'on en a davantage, 58,2%, en presse professionnelle aussi. Et puis, l'image, je dirais, de la télévision et de la radio, et notamment des télévisions qui donnent souvent sur leur plateau une image un peu de parité, justement, dans les modes de présentation, eh bien, est assez déformée, puisque ce sont les télévisions généralistes privées qui ont le moins de femmes, c'est-à-dire moins d'un tiers. Qu'est-ce qu'elles occupent comme place? Et c'est vrai que là, on s'aperçoit que ce sont plutôt ou des fonctions un peu traditionnelles de secrétaire de rédaction, c'est là qu'on en a le plus, 65%. Dans les rédacteurs, reporters, on est pratiquement à la parité. Mais par contre, dès qu'on arrive sur le terrain, quoi, oui. le danger, l'aventure, etc., l'image un peu très, très renforcée des journalistes, là, les grands reporters, 25%, les reporters photographes, 20%, un tiers de JRI, journaliste reporter d'images. Et puis alors, quand on arrive à la hiérarchie, effectivement, en presse écrite, on est à un tiers, en gros, et en radio et en télévision, c'est vraiment pas bien, on est au-dessous du quart. Hein. Et puis, les femmes, eh bien, sont davantage frappées par la précarité, hein, c'est-à-dire ce qui, en matière de journaliste, s'appelle être pigiste. Hein. Mmh. Et là, on franchit allègrement la barre des 50, on est à 54%. Et puis, est-ce qu'elles sont payées de la même manière? Alors là, vous me direz que c'est peut-être pas une exception liée au journalisme, mais il y a quand même, si on prend le salaire médian, donc on est à 300 € de décalage.
Oui, tout à fait. Alors ça, c'est pour les femmes dans les rédactions. Oui. Maintenant, leur place, on en a un peu parlé avec Ségolène Anouilh, leur place dans les contenus, dans l'information.
On a quelque chose que tout journaliste, tout cadre de rédaction devrait lire, c'est-à-dire un rapport hein, qui est actualisé tous les ans, mais disons que son édition initiale, c'est de 2008, qu'il était devant le Haut Conseil à l'égalité. C'est le rapport sur l'image des femmes dans les médias de Brigitte Grézy. Et là, est-ce qu'elles sont présentes comme, on va dire, héros de l'actualité? C'est-à-dire, on a énormément d'images, de faits qui sont relatés. Est-ce que les femmes sont autant présentes? Et là, ce qu'on appelle le taux de présence hein, dans les informations est extrêmement bas. En France, il est de 17,7%. Ailleurs, disons, si on prend une moyenne un peu plus internationale, il est de 21%, donc un cinquième simplement. Alors, il y a effectivement aussi, on a parlé des expertes, c'est vrai, donc je ne vais pas reprendre les chiffres qui ont été donnés, mais il y a aussi comment on les présente. C'est-à-dire que, par exemple, jamais la fonction, très peu le métier. Et est-ce qu'on donne leur nom même simplement? Eh bien non, on les anonymise, c'est-à-dire qu'on ne donne que le prénom. Et ça, cette pratique, c'est 5 fois plus fréquent pour les femmes que pour les hommes. Et puis, si vous voulez, quels sont, est-ce que dans les sujets dans lesquels elles interviennent, est-ce qu'on parle de travail? Est-ce qu'on parle d'accès au savoir? Est-ce qu'on parle de formation? Est-ce qu'on parle de promotion? Eh bien, très rarement. En revanche, on trouve surtout des femmes comme témoins ou comme victimes. Là encore, j'irai dans les. On a parlé des stéréotypes. Alors, bien sûr, il y a tous les stéréotypes d'image, de représentation, etc. Mais il y a aussi les stéréotypes de rôle. C'est-à-dire que les femmes sont beaucoup plus souvent citées, 3 fois plus souvent citées, dans leur relation à la famille.
Jean-Marie Charon, oui.
Je voulais terminer en disant que le travail qui a été décrit, qui est celui de suivre, décortiquer, à l'intérieur des rédactions, il existe aussi vers l'extérieur. Il y a un site sur Internet qui existe déjà depuis plusieurs années, qui s'appelle Les Nouvelles News, et qui fait ce travail au jour le jour de décryptage de l'actualité en repérant les déséquilibres justement dans la parité.
Merci Jean-Marie Charon.
Ça fait mauvais genre quand même d'avoir une mise en examen alors qu'on est en campagne.
Je veux dire, il y a encore pire, il y a une journaliste. Dans une famille, ah, vous vous rendez compte, ma fille est proxénète, ouf. Enfin, mon fils est proxénète, ma fille est prostituée. Ouf, j'ai cru qu'elle allait être journaliste.
Voilà, il s'agit de Gérard Longuet, sénateur UMP de la Meuse, qui trouve sa blague très amusante. Il répondait à une journaliste du petit journal de Canal+, des propos très déplacés. Effectivement, on s'est dit qu'il faudrait sans doute beaucoup plus de femmes en politique et sur les antennes. On serait sans doute plus à l'abri de ce genre de dérapage. Et Radio France y travaille. Bonjour Marie-Christine Vallée.
Bonjour Frédéric.
Vous êtes directrice déléguée pour l'éditorial Europe à Radio France, mais ce qui nous intéresse surtout ce matin, c'est que vous avez établi la liste des femmes expertes pour Radio France. Alors c'est une liste qui est toujours en évolution avec de nouveaux noms et qui est à la disposition des rédactions du groupe.
Oui, alors on a mis en place ce répertoire des femmes expertes et il est en ligne sur notre intranet Radio France depuis le début de l'année. Il y a les noms de 220-222 femmes actuellement, qui sont en majorité des expertes sur les questions internationales. Elles représentent quand même 15% de cette liste. Beaucoup également en économie, banque et finance, elles sont 10%. Mais aussi d'autres questions comme la santé, l'Europe, l'éducation, l'énergie, l'environnement, et puis les sciences. Et puis alors, beaucoup aussi sont spécialisés sur les questions de femmes, de discrimination, de genre, d'égalité. Et donc, elles composent, tous ces noms-là composent ce répertoire, qui est mis à disposition des équipes de Radio France, que ce soit les journalistes, les producteurs, les collaborateurs d'émissions. Et ils peuvent chercher, lorsqu'ils ont une interview à mettre en place ou un invité à appeler, au lieu d'appeler un homme, eh bien ils peuvent appeler une femme experte qui est contenue dans cette liste. Il y a les numéros de téléphone, il y a leurs fonctions. Très souvent, elles sont universitaires ou rattachées à des centres de recherche. On évite les politiques. Ce sont donc des femmes qui sont plutôt, qui ont beaucoup écrit, qui ont réfléchi et qui souvent ont l'esprit universitaire.
Alors Marie-Christine, cette liste des femmes expertes donne des résultats. Vous avez noté des améliorations, notamment sur les matinales, hein, le prime time en radio.
Oui, parce que il se trouve que depuis 3 ans, hein, depuis novembre 2011, à Radio France, on mesure la place des femmes à l'antenne, mais pour les matinales, c'est-à-dire le 7-9. Donc on prend 3 de nos radios, Inter, Info et Culture, et on compare avec 3 radios concurrentes privées qui sont Europe 1, RTL et RMC. Et on voit la place des femmes, on mesure la place des femmes. Alors c'est vrai que c'est en augmentation, par exemple pour la saison 2013-2014, on a compté une moyenne de 25% de femmes invitées, ce qui est plus que par rapport à la saison 2012-2013. Parmi toutes ces femmes invitées, on compte des femmes expertes. Et la moyenne pour la dernière saison a été, tout confondu à Radio France, pour ces matinales, de 31%, c'est-à-dire sur 100 femmes invitées, 31 sont des femmes expertes. Les autres sont des syndicalistes, des politiques ou des diplomates. Elles appartiennent plus à la vie publique traditionnelle.
Alors Marie-Christine Vallée, rapidement, est-ce qu'on fait mieux ou moins bien que les autres radios, que les concurrents ?
D'après les chiffres, on fait beaucoup mieux et on est en progression. Au mois de septembre, le CSA a fait un rapport en expliquant que l'on était en progression à Radio France et également sur France Télévisions. En revanche, sur l'ensemble des radios et des télévisions autres ou l'ensemble du paysage audiovisuel, le CSA estime qu'il y a encore des efforts à faire, qu'il faut que ce n'est pas suffisant, mais que effectivement Radio France progresse. Et donc cet outil, on l'espère, est utile parce que si on cible les matinales dans la direction des études, si on a ciblé les matinales, il faut voir pour le reste de la journée, dans les autres émissions, les journaux d'information. Donc là-dessus, je dois dire que depuis quelque temps, j'entends des voix de femmes expertes qui sont dans le répertoire. D'autres étaient déjà connues des équipes avant d'entrer dans le répertoire. Mais par exemple, pour des questions d'actualité liées à l'Ukraine, à la Russie ou même à des analyses économiques qui sont nombreuses maintenant, on entend des femmes que j'ai rentrées dans ce répertoire des expertes.
Merci Marie-Christine Vallée. Françoise Laborde, vous vouliez réagir au constat que fait Marie-Christine ?
par rapport à ce que disait notre ami sociologue, on est en train de travailler justement sur ces grilles qu'il a évoquées tout à l'heure pour dénoncer les stéréotypes, où en effet on va soumettre aux différentes patrons de chaînes l'ensemble d'une grille qui permet d'apprécier ou pas les stéréotypes en donnant la place des femmes, pas simplement dans l'actualité, mais aussi dans la fiction, parce que c'est très important, la fiction, mais aussi dans tous les secteurs, dans le divertissement, pour qu'en effet on sorte d'une image qui serait trop sexiste et trop réductrice des femmes. Donc cette grille-là, où on demande en effet que les stéréotypes soient dénoncés, si je puis dire, est extrêmement important. C'est bien, en effet, de prendre conscience en ce qui concerne Radio France qu'il y a des efforts à faire. Oui, il y a des efforts à faire. Oui, il y a des efforts à faire. Donc je ne vais pas être désobligeante et dire que ça ne suffit pas. Mais voilà, on commence à prendre un chemin qui est intéressant. Il faut qu'il y ait encore plus de femmes présentes à l'antenne, à Radio France, qu'elles soient salariées de Radio France ou qu'elles interviennent en tant qu'expertes. Et des expertes, y compris sur l'Ukraine, on en trouve.
Oui, on en trouve en nous en diffusant. Radio France a certes des efforts à faire, mais le CSA ne doit-il pas montrer l'exemple? Alors, est-ce que vous militez pour que le prochain président de France Télévisions, Françoise Laborde, soit une femme?
Absolument. Mais le CSA montre l'exemple puisque nous sommes absolument à parité. Et d'ailleurs, c'est ça qui change dans le fonctionnement d'une institution.
5 femmes, 4 hommes.
Absolument. Je trouve que c'est en effet une façon de travailler différente. À partir du moment où on est à parité, on aborde les questions de façon différente, on aborde justement la question de la place des femmes de façon complètement différente et c'est très important. Et bien sûr qu'on est extrêmement préoccupé et attentif à l'idée de pouvoir nommer des femmes dans l'audiovisuel. Je ne serai pas là en 2015 puisque mon mandat s'achève en janvier pour participer à ce choix, mais j'espère évidemment très vivement que ça ira dans ce sens.
Merci Françoise Laborde. Ségolène Anoto, vous vouliez intervenir?
Oui, enfin, je voulais saluer aussi dans le Show and Shine, il y a plein de réseaux de femmes expertes qui, elles, se prennent en main et qui créent leur propre liste. Il y a Vox Femina, enfin, Françoise Laborde les connaît bien. Il y a les femmes dans le multimédia. Il y a beaucoup de choses qui viennent des femmes expertes elles-mêmes. Maintenant, il faut vraiment que les journalistes s'interrogent sur les résistances qu'ils opposent à ce genre d'annuaire, de guide des expertes. Il y a aussi un guide des expertes qui est publié chaque année avec 400 noms. Souvent, il finit dans la poubelle des rédactions parce qu'on brandit souvent la liberté éditoriale en disant « moi, je choisis un expert selon sa compétence et pas selon son sexe ». Et ben, je pense que c'est une erreur parce que, en fait, souvent, on attribue trop facilement la compétence comme étant une qualité masculine et on est assez inconscient de, finalement, des stéréotypes qui nous habitent. Et je pense qu'il faut, il faut dépasser ça et je pense qu'il faut former les journalistes en formation continue et puis en formation initiale dans les écoles à ce genre de choses, les stéréotypes, les clichés. C'est facile que les écoles s'en emparent. Je crois qu'elles sont encore loin de ça.
Alors, je vais donner la parole à un expert homme pour le multimédia, Thibaut Henton. En l'occurrence, c'est l'image de la semaine. Football et violence, c'est ce que chantait Renaud d'ailleurs dans Miss Maggie. Il n'y a pas de gonzesse aussi peu dans les hordes de supporters et on l'a encore vu cette semaine.
Voyez où mène la testostérone. Lors du match de football entre la Serbie et l'Albanie mardi dernier, un drone s'est mis à survoler le terrain. Très vite, un drapeau en est descendu, un drapeau sur lequel figurait une carte de la Grande Albanie, un emblème nationaliste, incluant le Kosovo, dont la Serbie conteste l'indépendance. Un défenseur serbe a soudain pris l'initiative de décrocher le drapeau, affront insupportable pour les joueurs albanais, entraînant baston et éruption de hooligans, forçant l'équipe albanaise à un retour précipité dans les vestiaires. Mais qui pilotait le drone? Le frère du Premier ministre albanais lui-même a été soupçonné de contrôler l'engin depuis la tribune des officiels. Le frangin s'est défendu, arguant n'avoir jamais touché à ça, que le seul truc volant qu'il ait jamais acheté, c'était un hélicoptère joué pour son fiston. Alors, de fait, le drone utilisé pendant le match ressemble aussi à un jouet, et il n'y en avait qu'un, et il était inoffensif. Mais il faut savoir que les marchands de contrôle conçoivent désormais, grâce à des algorithmes calqués sur la nature, des colonies de drones capables de voler en essaim.
Merci Thibaut Henton, le clin d'œil de la semaine.
Quand je dis Marguerite Durand, vous connaissez, une personne sur 100 répond oui. Et quand elle dit oui, de fait, elle en connaît peu de choses. I'm a long time woman, and I'm serving my time. Marguerite Durand est un personnage absolument fantastique qui a marqué son époque, fin du siècle dernier, début du 20e. autant, je dirais, sinon plus que bien des hommes, journalistes, politiciens, syndicalistes. Elle a lancé un journal quotidien féministe, à une époque où les femmes dans la presse étaient rarissimes.
Je dirais presque que c'est un trop bel exemple. Et actuellement, il y a un problème de responsabilité des femmes, c'est-à-dire que compte tenu de leur nombre et de leur importance dans la profession, elles devraient être beaucoup plus nombreuses à des postes de décision. Et ce n'est pas le cas. Alors il faut se demander pourquoi.
Voilà, hommage à Marguerite Durand, fondatrice du journal La Fronde en 1897, un hommage signé Yacine Bouzard. Voilà, merci à tous. Le secret des sources touche à sa fin. Quelle place pour les femmes dans les médias? Vous êtes les bienvenus sur notre site franceculture.fr pour réécouter, commenter ou podcaster l'émission. Merci à nos invités, Françoise Laborde, journaliste, présidente de l'Association pour les femmes dans les médias et membre du CSA, Ségolène Anoto, journaliste et co-porte-parole du collectif Prenons la Une, Valérie de Senneville, journaliste aux Échos. Merci également à Marie-Christine Vallée. Merci à nos deux regards extérieurs, deux rendez-vous incontournables de l'émission. Jean-Marie Charon, sociologue et spécialiste des médias, et le très connecté Thibaut Henton pour les images et le multimédia et le clin d'œil que vous venez d'entendre signé Yacine Bouzard. Indispensable dans les coulisses, Vincent Abouchard, Mathias Mégy et Laurie Vachon pour la réalisation et la préparation de l'émission. Un grand merci à toute l'équipe de France Bleu Lorraine Nord qui nous a superbement accueillis et prêté ses installations. Et puis, il n'y a pas de mal à se faire du bien. France Culture distinguée aux Assises internationales du journalisme. Farida Taher, lauréate du prix Stop aux clichés sur les jeunes. Pour son documentaire, il était une première fois dans l'émission Les Pieds sur Terre sur France Culture, diffusée le 23 avril 2013. Bravo à Farida Taher, une femme récompensée. Dans un instant, le journal de Sarah Petitbon, suivi de répliques, l'histoire et l'avenir du fascisme en France. Alain Finkielkraut reçoit Pierre Milza et Zev Sternel. Le secret des sources sur France Culture. Nous étions à Metz pour la 8e édition des Assises internationales du journalisme et de l'information, les Assises qui se tiennent jusqu'à ce soir à l'Arsenal de Metz. Vous pouvez nous retrouver sur franceculture.fr. La semaine prochaine, vous avez rendez-vous avec Frédéric Mettezo pour un nouveau numéro du Secret des Sources.
C'est vrai aujourd'hui que vous regardez dans les chaînes de télévision, dans les radios, les responsables, les patronnes, les directrices, elles se comptent sur les doigts d'une seule main. Et ça, ça n'est pas possible. On ne peut pas vivre en 2014 dans une démocratie qui considère comme étant normal que la moitié de sa population, 51%, soit considérée comme subalterne par l'autre moitié de la population.
Au début des années 80, on n'en était encore qu'à 25%, à peine le quart des femmes, des journalistes étaient des femmes.
En gros, quand on parle des femmes expertes, c'est-à-dire quand quelqu'un parle à la télévision, dans les colonnes d'un journal ou même à la radio pour sa compétence, pour son savoir, quand il est interrogé pour ça, 8 fois sur 10, c'est un homme.